Amen.
Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions également de cette conférence, de ta parole et la communion que tu nous as permis d'avoir en dépit de toutes les restrictions extérieures. Nous te louons, nous te faisons confiance. Tu vas aller de l'avant avec nous parce que tu es le Seigneur vivant en nous, le Seigneur dans notre esprit. Seigneur, guide-nous. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es fidèle envers ton Église.
Amen.
Le Seigneur, en fait, il a une œuvre merveilleuse. Qu'il est en train d'accomplir et nous avons intérêt à être vigilants à son action et sa manière de nous guider. Il est le Seigneur et ce n'est pas une petite chose ce qu'il est en train de faire. Ce que Jean veut nous montrer dans l'Apocalypse, c'est confirmé d'ailleurs par beaucoup d'autres portions des Écritures, c'est de nous montrer qu'il est le Seigneur et qu'il règne. Il est en train de régner et ceci d'une manière très sage et mystérieuse. En fait, il règne par sa vie et nous y participons. D'ailleurs, nous participons en toutes choses, tout ce qui est écrit dans les Écritures. C'est pour ça que c'est un testament, c'est ton héritage. Tu en as hérité comme ton trésor intérieur, comme la chose la plus précieuse qui nous attire, qui remplit notre vie. Et lui, par ça, il va mener à bien son œuvre sur la terre. Nous ne voulons pas simplement lire les Écritures. Ce passage-là semble représenter quelque chose de très loin de nous au ciel. Jean, il voit une scène céleste, une vision un endroit apparemment inaccessible, le royaume de Dieu avec des êtres vivants, les 24 anciens. Et au milieu, un agneau. Tu peux contempler cette scène comme une image devant tes yeux, une belle image, ou une image effrayante. Il faut savoir que cette image, cette scène nous annonce une vérité. Nous aimons bien des scènes ou des vidéos. Mon petit-fils me dit parfois, est-ce que tu pourras pas me faire passer une de tes vidéos? Nous aimons voir des images animées parce que ça peut être utile de voir une image animée. Mais cette animation-là, cette scène, c'est une scène éternelle qui valait il y a 2000 ans comme aujourd'hui. Et cette question posée au ciel, de savoir qui est digne d'ouvrir le livre et les sept sceaux, il n'y avait personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni en dessous. Personne. Il n'y avait nulle part, on ne trouvait personne pour ouvrir ce livre. Un seul. Un homme, pas un animal ni un ange, mais un homme était censé ouvrir le livre. Et c'est celui qui a tout accompli et qui accomplira toute chose. Et c'est par lui que Dieu a créé la terre, comme on le lit dans Colossiens 1.15. Par lui, Dieu a créé la terre et toute chose qui existe, existe par lui. Et par lui, Dieu s'est révélé lui-même. Il a tout accompli ce qu'un homme peut accomplir sur la terre et à la fin, sur la croix, il a pu dire « Il est accompli ». Cette époque était terminée. Hier, vous avez vu la ligne avec tous les âges. Jésus-Christ, celui qui est, qui a accompli cette œuvre que Dieu lui avait donnée, il est maintenant parmi les disciples en esprit. Et jusqu'à ce jour, il agit avec nous et parmi nous. C'est pas nous qui agissons par l'Esprit, mais c'est en même temps le Seigneur sur le trône qui arrange toutes choses d'une manière souveraine, les circonstances, les rencontres. Ce Christ merveilleux qui dirige toutes choses par sa grâce. Faisons-lui confiance aussi à l'avenir, même pendant cette période difficile. Nous regardons Jésus. Et Jésus, lui, il est au milieu du trône. Par moments, tu peut pleurer comme Jean aussi avait pleuré parce qu'il avait trouvé personne qui était digne. Nous aussi, nous pleurons parfois en nous rendant compte de notre manque de dignité. Alors, personne n'est digne, personne n'est juste. Tu ne peux qu'en pleurer, nous en souffrons tous sous notre injustice comme sous l'injustice des autres. Mais ne pleure pas, même pas à cause de la situation dans le monde. Mais ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il dit le rejeton de David pour mettre l'accent sur le fait que c'était un homme qui a vaincu. Pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, au milieu du trône. Au milieu du trône de Dieu, l'agneau et le Père occupent une seule position. Et il faut honorer l'agneau comme le Père et le Père comme l'agneau puisqu'ils sont un, unis. Un agneau qui était là comme immolé. Comme récemment isolé, immolé, en fait. Immolé, mais quand même vivant, car il a sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ça nous montre le caractère global du Seigneur Jésus-Christ. Lui a été immolé, mais n'empêche qu'il s'identifie qu'il est les sept esprits envoyés par toute la terre. Tu vois des contrastes ici. Un lion, c'est le roi des animaux. Tu ne trouveras pas de lion qui a peur. Il devient agressif, mais il n'a pas peur, il ne prend pas peur. Difficile de vaincre un lion. Et ça, c'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et d'autre côté, cet agneau immolé, faible, tué par les hommes, cloué à la croix comme un criminel. Celui qui était sans péché a été exécuté. Personne ne s'est levé pour dire « Stop, c'est injuste ». Tous l'ont abandonné. Les disciples, eux aussi, étaient faibles. Quelques femmes étaient tout près. Elles étaient courageuses. Ce contraste entre le lion et l'agneau montre déjà que le Seigneur, il englobe tout ce qui se trouve entre la domination, le règne et la faiblesse extrême est inclus dans le Seigneur. Lui, il est plus faible que n'importe qui parmi nous, et il est aussi plus fort que n'importe qui parmi nous. Et c'est ce Christ-là, frères et sœurs, qui est notre portion. Il nous appartient. Si nous sommes faibles, lui, il était plus faible encore. Mais il est aussi le lion. Parfois, il nous soutient par sa force de résurrection. Et parfois, il nous dit que ma grâce te suffise parce que ma force est puissante dans les faibles. Dans moi-même aussi. Lis cette parole et vois la vision. Il n'est pas seulement le Seigneur qui nous suivons. Il est notre portion, le plus puissant, le plus faible, crucifié et quand même ressuscité. Louez le Seigneur. Sept yeux, sept cornes, un agneau avec sept cornes. Ça dit tout. Un frère, j'ai bien aimé lorsqu'il a dit, regardez les sept cornes dans Apocalypse, ou non, dans Éphésiens 6. Il montre dans Éphésiens 6 la puissance dans la prière. Ça montre que l'agneau est notre portion. Éphésiens 6 montre l'Église comme le combattant l'ennemi et l'humanité déchue, non renouvelée, un grand combattant, puissant, pour lier, délier, pour prendre captif les pensées. Nous sommes puissants par le Seigneur. Et puis, ils chantent un nouveau cantique. Il y a 2000 ans, à cette époque, cet événement venait de se passer et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est toujours si clair, si réel et c'est notre portion. Ils chantaient en disant, tu es digne de prendre le livre parce que tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qui a été racheté par son sang, nous tous, nous avons été rachetés, c'est-à-dire nous lui appartenons. Louez le Seigneur parce que nous lui appartenons. Nous avons été rachetés. Et pour quel but? Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Un royaume et des sacrificateurs. L'agneau a versé son sang pour nous racheter, pour nous libérer de notre culpabilité. Il est maintenant si simple de venir à lui. Le Seigneur, il doit nous purifier par son précieux sang. Il doit nous purifier régulièrement. Prends le sang. Dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Est-ce si difficile? Tu ne l'as peut-être plus fait depuis longtemps, mais tu peux toujours le faire. Dis au Seigneur, pardonne-moi mes fautes, ma culpabilité. En tant que chrétien, croyant, répands-toi. Répands-toi, c'est ce qu'il dit à l'adresse de 5 églises sur 7. Nous, on fait parfois semblant, comme si on n'avait pas besoin, mais chacun a péché. Il a besoin d'être purifié et sanctifié. Y a-t-il quelqu'un qui est sans péché? Il n'y a que l'agneau de Dieu. Donc, applique son précieux sang versé pour pardonner les péchés. En fait, le Seigneur nous a rachetés. Mais ce n'est pas seulement un problème de péché. Et le pardon des péchés nous purifie et ouvre le chemin. Moi, j'ai déjà rencontré des croyants qui, du coup, disaient, moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Mais ce n'est pas possible. Il y a une barrière. Ça peut être un péché parfois. Parfois, le blocus, ça peut tenir au fait que c'est un homme de l'âme, distrait, entièrement préoccupé par ses propres affaires, qui regarde tout le temps sur soi-même, ne pourra peut-être plus croire à un moment donné. Vaut mieux, regarde l'agneau, regarde le lion, regarde l'agneau qui a les 7 cornes, par la foi. Et dis-lui, Seigneur, je crois en toi. Et tu le prends, tu l'appliques. Il n'est pas loin de toi, il est dans ton cœur et dans ton esprit. Et l'issue de sortir de ton moi, c'est de lui adresser la parole. Parlons avec le Seigneur et nous rentrerons dans l'esprit. Prenons la parole et parlons avec le Seigneur de la parole.
Ich habe als die Brüder diesen Schriftabschnitt wählten,
lorsque les frères ont choisi cette portion des Écritures, je n'étais pas convaincue que c'était bien la parole pour le moment, mais plus on était là-dedans, plus je me rendais compte que c'est exactement la parole du Seigneur pour nous à ce moment précis. Donc, en nous plongeant dans la parole, en parlant avec le Seigneur, l'effet est énorme. Et il faut le faire. Et puis, nous voyons qu'il y a un accès, la lumière vient, on a le courage. Verset 10, le thème d'aujourd'hui, « Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Ce sera le point final aujourd'hui, de voir que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. As-tu été racheté par son sang? Tu y as été racheté, tu lui appartiens. Alors, à quoi bon? Pour être un sacrificateur. Un royaume et des sacrificateurs. Pour quel but, pour quel objectif avons-nous été rachetés? Pour être un royaume et des sacrificateurs. Il y a un seul souverain sacrificateur et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Les autres sont simplement des sacrificateurs. Oublie tout. Tout ce que tu peux avoir appris ou vu dans la religion concernant les sacrificateurs, tout ce que on t'a enseigné concernant le service des sacrificateurs, permet au Seigneur de briller. Seigneur, montre-moi ce que ça veut dire, le fait que moi je suis un sacrificateur. Un aspect essentiel, c'est le fait qu'un sacrificateur règne dans la vie. C'est pour ça que c'est aussi un royaume. Il règne dans la vie. Donc c'est une toute autre façon de régner que la pratique humaine. Lui aussi, il permet d'être régné, d'être dominé par la nuit. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui prend du Seigneur, qui se remplit de lui et qui, par conséquent, peut régner dans la vie. Nous avons déjà expérimenté tout cela, au moins en partie. Dans beaucoup de situations, le Seigneur nous a donné la souveraineté aussi pour régner sur notre moi. Paul, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, il dit que mon vieux moi est soumis par la mort de Christ. La croix s'applique aussi en moi. Et lui, le Seigneur, il a déjà vaincu, terminé, temps passé, mon moi. Je suis mort avec Christ. Important de voir cette vision. J'étais crucifié avec Christ et immédiatement je me retrouve dans le domaine de la vie et de la victoire.
Oh, Herr Jesus. Ja. Wir denken viel zu klein von uns selbst.
Parfois, nous voyons d'une façon beaucoup trop petite. Nous nous sous-estimons nous-mêmes et notre prière. Parce que nous nous sous-estimons nous-mêmes, on manque de cette conscience, je ne vais pas dire de nous-mêmes, conscient de nous-mêmes, c'est quelque chose des gens du monde, mais on manque de cette conscience de notre nouvelle nature qui est Christ en nous, notre portion. Christ est notre portion, il demeure en nous et il est énormément riche à tous les égards. Dans Hébreux 7, ce Christ est décrit en tant que le souverain sacrificateur. Il est notre souverain sacrificateur. Il est décrit comme celui qui peut sauver. Il peut sauver tous ceux qui s'approchent à lui parce qu'il vit toujours pour faire intercession pour nous. Il a non seulement donné sa vie pour nous racheter, il est vivant maintenant, il intercède pour nous. Lui, il est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur en nous. Il convient à nous, c'est-à-dire chaque partie en nous peut être interchangée contre sa nature. Celui qui est saint. Et de plus en plus, moi aussi, je suis sanctifié. Il est saint et sans péché, séparé du mal et plus élevé que les cieux. Tout ce que tu pourras penser, accéder dans toutes les hauteurs, les largeurs. Lui, il est plus haut et plus large. Et là, il n'est pas question des dimensions terrestres, mais de dimensions spirituelles. Nous nous sous-estimons et notre œuvre. Nous avons trop de conscience de nous-mêmes et nous manquons de la conscience de Christ en nous. Notre assurance, conscience de nous-mêmes est un grand obstacle. Oublie-toi, toi-même. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, je ne me juge pas moi-même. Bon, je pense qu'il est resté dans la lumière du Seigneur en ce qui le concernait aussi personnellement, mais il a regardé Christ. Notre assurance de nous-mêmes est composée de deux aspects très nuisibles. Nous nous surestimons d'une mauvaise manière et aussi nous nous sous-estimons d'une mauvaise façon. Celui qui se sous-estime dira « je ne sais rien faire, je suis rien, je suis nul ». Peut-être un professeur à l'école t'a dit en quatrième « toi, tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit. » Et ça a marqué la pauvre âme. Et jusqu'à ce jour, à l'âge de 50 ans, elle est toujours convaincue que moi, je suis nulle. et une autre personne est en permanence en train de cultiver son moi, de le mettre au centre et d'exposer aux autres qui il est. Regardez comment moi je suis. Attention, c'est moi qui arrive. Moi aussi, j'ai quelque chose à ajouter. Moi, je sais quelque chose. Moi, j'ai recherché sur Internet et j'ai trouvé, j'ai lu telle ou telle chose. Ça, c'est l'assurance du moi. Et on a du mal à s'en défaire. Mais le regard tourné vers le Seigneur, c'est ça ce qu'il faut fortifier, parce que c'est notre salut. Moi, je suis en Christ éternellement. Espérons jusqu'à la fin de votre vie humaine. Je peux que encourager tous les jeunes au moins jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est à nous de décider ce qui doit se passer avec nous. Il ne faut pas nous sous-estimer nous-mêmes dans le domaine spirituel, puisque Christ vit en nous et en Christ demeure toute la plénitude de la divinité. Dans cet homme Jésus, c'est encore quelque chose que nous pouvons à peu près croire. Mais le fait que maintenant, toute la plénitude habite corporellement en nous aussi. Ça, c'est un peu dur à voir, à croire. Mais nous pouvons le confesser en disant, Seigneur, toute ta plénitude demeure en moi. Moi, j'ai été crucifié et je vis par toi. C'est aussi un constat dans la foi qui va nous amener la vie et la lumière. Nous le regardons, et plus nous le regardons, lui, 2 Corinthiens 3:18, nous l'avons déjà lu à plusieurs reprises pendant la conférence, c'est en contemplant notre Seigneur Jésus-Christ dans la parole, il paraît en dehors de nous, n'empêche qu'il est une réalité dans notre esprit, cela nous transforme. C'est comme un verre d'eau avec au fond du verre un concentré de jus. Le jus est dans le verre. Et mais que préférons-nous? Préférons-nous boire l'eau et le concentré de jus à la fin? Maintenant, il faut remuer. Et chaque fois que nous contemplons le Seigneur, c'est comme remuer le verre et le goût. Ça fait monter le goût. Tu auras un goût. Ah, voilà, c'est comme ça qu'est mon Christ. Moi, c'est lui que j'ai reçu. Son goût est merveilleux. Mais c'est génial. Je voudrais expérimenter davantage de cela. Chaque fois que nous prions, c'est que nous remuons. Chaque fois que nous donnons un témoignage, c'est de remuer. Beaucoup ont déjà rendu le témoignage que par en parlant, ils ont expérimenté le Seigneur. L'Évangile, c'est un joyeux message. Si nous ouvrons la bouche pour l'annoncer, ça nous réjouira nous-mêmes. Dans la communion avec les frères et sœurs, avec d'autres croyants, même avec les gens du monde. Quelle bénédiction et quelle joie que d'annoncer l'Évangile. C'est comme si on remuait quelque chose qui est une réalité dans mon esprit. Tant que tout reste au fond, je manque de joie, je n'ai pas ce goût, je n'ai pas la foi, mais remue tout simplement. Et tu verras quel Christ tu as reçu. Tu sais, le ministère de sacrificateur, c'était synonyme à beaucoup de travail. Dans Exode, Dieu dit au peuple qu'il désire qu'il soit un peuple de rois et de sacrificateurs. Et où est-ce qu'on retrouve ce même verset? Vous savez? 1 Pierre 2, verset 9. Et puis Apocalypse 1, 7. Et encore dans l'Apocalypse, et en particulier dans l'Apocalypse qui décrit le dernier bout de l'histoire, il faut voir que nous sommes les sacrificateurs et ça, c'est synonyme de travail. Dans les tabernacles, les sacrificateurs ont fait un travail assez dur et ils étaient très actifs. Et ils étaient tous considérés. La tribu de Lévi n'a pas reçu de portion de la bonne terre. Cette tribu choisie n'a pas reçu de portion de la terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Leur portion, c'était Dieu. Est-ce que tu serais prêt à faire un travail dur en contrepartie de Dieu comme ta portion? Tu abandonnerais ton travail pour servir le Seigneur sans savoir si tu seras encore récompensé, payé. Tu te consacres complètement pour le Seigneur et son œuvre. Il y a longtemps que j'ai vu ça. Dieu, ma portion. Mais plus que le Seigneur devient ma portion, plus je serai prêt à me consacrer à lui. Les sacrificateurs étaient entièrement consacrés. Et l'agneau a racheté ces personnes pour Dieu. Donc, ils sont consacrés à Dieu. Ils lui appartiennent. Qui ne veut pas être consacré à Dieu? Nous sommes consacrés à Dieu, indépendamment de notre volonté, parce que nous avons été rachetés. C'est ça, notre destinée, de servir le Seigneur pendant toute notre vie. Et là, ça devrait nous préoccuper de savoir comment puis-je servir davantage le Seigneur, pas seulement un petit peu par-ci, par-là, s'il nous reste le temps. Nous sommes en effet un royaume de sacrificateurs. Nous connaissons le Seigneur de plus en plus et nous apprenons à le servir. Je loue le Seigneur parce qu'il y a un grand nombre de frères et de sœurs qui servent le Seigneur et qui apportent des sacrifices pour le Seigneur et pour les frères et sœurs, comme on le voit aussi à la fin de l'Épître aux Hébreux.
Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist Hebräer 13, Vers 15.
Hébreux 13, 15 et 16.
Und mit anderen zu teilen,
denn par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oubliez tout ce qu'on pratique dans la religion. Ce n'est que pour des êtres humains et pour des groupements. Là, vous voyez le véritable sacrifice de louange. Oublie tout le reste, tous les abus de sacrifices, les doctrines, tout ça, tu peux oublier. Garde le Seigneur devant les yeux et pas ce que les êtres humains disent ou enseignent. Et s'il te propose une œuvre qu'il a déjà préparée à l'avance, pratique-le, fais-le. Souvent, c'est juste à portée de main. Fais-le. Pas besoin de réfléchir longtemps. Vas-y, fais-le. Nous tenons devant le Seigneur en tant que sacrificateurs, comme les fils de Zadok. Je ne sais pas si c'est dans Ézéchiel 44. Cette génération de sacrificateurs qui est restée fidèle à eux, le Seigneur dit que vous tiendrez devant moi. C'est merveilleux, un merveilleux service. Nous pouvons oublier tout le reste. Ces termes de l'Ancien Testament, ces images qu'il ne faut pas trop forcer, mais ce qu'ils font ressortir, ils font bien aussi le dire. Nous servons le Seigneur et aussi les frères et sœurs. Et je loue le Seigneur pour tous les services dans l'Église. Et j'aimerais vous inviter pour faire plus de services, et parce qu'il y a encore des lacunes. Et je ne vais pas dire qu'il nous manque de frères et sœurs pour le service des enfants ou la technique. Bon, il y a toujours un besoin, c'est vrai, mais le ministère, le service des sacrificateurs, ça veut dire servir le Seigneur et les frères et sœurs. Et comme Paul le dit aussi dans 2 Corinthiens, ils se sont consacrés au Seigneur et ensuite aussi à nous pour ce service. D'abord pour le Seigneur, ensuite pour les hommes. Le Seigneur vient d'abord, ensuite les hommes dans notre service. Frères et sœurs, nous jouissons d'une telle plénitude merveilleuse en nous et encore plus dans l'Église. C'est si bien que nous avons un sacerdoce, nous pouvons nous encourager et nous ranimer mutuellement avec l'Évangile, l'Esprit, la vie. Tout est disponible, frères et sœurs. Creusons un peu. Et apportons quelque chose sans penser, bon, c'est encore l'heure de la réunion, mais je dois encore faire telle ou telle chose absolument importante. Non, c'est la réunion qui est importante. Également nous réunir rapidement et de commencer tout de suite. Dès que je suis là, la réunion commence à me tourner vers le Seigneur, à prier, à avoir la communion avec le Seigneur et de tenter de le connaître, de connaître plus Christ en moi. Dans 1 Corinthiens 4, 7, Paul parle du trésor dans les vases de terre. Pourquoi est-ce qu'il utilise toujours les superlatifs? Toute la plénitude de Dieu demeure en lui. Et nous avons cette plénitude en lui. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Des superlatifs tout le temps. Dans la communion des sacrificateurs, il y a la plénitude, la richesse. Nous connaissons, nous l'expérimentons toujours. Notre société a une attitude de consommation, mais nous ne soyons pas passifs. Nous ne sommes pas des consommateurs. Et en tant que consommateurs, on devient de plus en plus passif. Ça vaut pour les jeunes comme pour les vieux, en particulier pour les jeunes. C'est si nuisible de consommer, uniquement de consommer tout le temps. Soyez actifs plutôt. Également dans le domaine de l'âme, il vaut mieux d'être actif, de bricoler, que sais-je, plutôt que de traîner d'une manière passive, sans rien faire. Où voulez-vous aller? Finalement, vous serez complètement isolé. Cherchez la communion. Sinon, mon horizon se rétrécira de plus en plus. Moi, je ne crois pas que si tu es n'importe où, isolé, tu pourras être un sacrificateur. C'est un sacerdoce, tu as besoin du temple, de la maison, de l'église, des autres sacrificateurs. Et nous sommes des intendants, des biens de Dieu. Nous sommes tous si riches, ne vous sous-estimez pas, vous êtes si riches. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le lire. Paul l'écrit à l'église à Corinthe. Je rends grâce. C'est tout au début, chapitre 1, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le croyez? Dans Christ, la bonne terre, c'est là que se trouve le trésor. Ne cherche pas ailleurs. Le trésor n'est pas chez les bons prédicateurs, ni dans les mythes, les contes fées que vous pouvez trouver sur Internet. Le trésor est en Christ. Les autres choses peuvent nous distraire et voiler le trésor devant nos yeux.
Ihr sagt noch, Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid.
Et puis il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a été appelé à la communion de votre, de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes des sacrificateurs appelés à la communion. Et puis il commence les exhortations. J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non. Paul, il n'est pas la plénitude. La plénitude est en Christ et dans son corps. Et si le corps est divisé, frères et sœurs, ça, ce n'est pas pour nous. Nous restons fermes. Je loue le Seigneur pour ceux qui sont restés fermes dès le début. Si quelqu'un pense que c'est en raison de son enseignement, de son don, il peut diviser le corps, ça c'est son problème. Mais nous n'avons rien à faire avec ça. Lui, il n'héritera pas du royaume, nous dit la Bible. La plénitude du corps, tu la vois lorsque le corps est dans l'unité. Rien qu'une rivalité, une dispute secrète peut être nuisible et que tu ne vois plus la plénitude de l'esprit. Purifie ton cœur, cherche les frères et sœurs.
Geschwister, es ist so viel Warnung hier drin, ja, aber ich wollte eigentlich nur über die Fülle reden, aber wenn du den Paulus
il y a pas mal d'exhortations là-dedans. Moi je voulais uniquement parler de la plénitude, mais tu vois, Paul, il parle d'abord de la plénitude et il enchaîne avec les avertissements. Ne pensez pas que nous avons la plénitude, nous ne risquons rien. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2, verset 9. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Et puis il continue. Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire ou au sujet d'une fête, que personne vous sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son cré le prix de la course. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Si quelqu'un veut te distraire dans la raison et qu'il ne soutient pas l'amour pour le Seigneur en toi, évite le contact. C'est la mort. Une personne qui s'enfle, est enflée d'un vain orgueil et...
Oh, Herr Jesus, ja.
Au lieu de bâtir le corps, également dans le chapitre 2, Paul prie que les cœurs soient remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. un savoir mystère dans lequel sont cachés sous les trésors de la sagesse. À l'époque, il y avait la gnosis. C'était un culte de la connaissance. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se vantent de leur connaissance, des alliances secrètes, on peut dire, des sociétés parallèles, comme à l'époque de la gnose. Mais ce n'est pas la connaissance ici dans laquelle sont cachés tous les trésors, tous les mystères de la sagesse et de la connaissance. Et je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Nous avons un Christ merveilleux, nous avons toutes les richesses, tout ce qu'il nous faut en lui. Et il faut être diligent comme un sacrificateur pour aller à Christ régulièrement, prendre de lui, être rempli, afin que nous soyons tous remplis jusqu'à la plénitude de la divinité. Et puis, nous dispensons toutes ces richesses, et en dispensant, nous devenons encore plus riches. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? En fin de compte, à la fin, ce qui apparaît, c'est l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau. C'est lui que nous aimons et nous voulons être unis avec lui, complètement unis. Le Seigneur, il a un plan. Et nous prions qu'il mette en exécution son plan rapidement. Ce que nous voyons ici, c'est comme des pièces de puzzle. C'est encore un peu décousu, comme dans 1 Corinthiens 13, les choses qui s'arrêteront, comme le parler en langue, la sagesse. Mais bâtir le corps, préparer l'épouse, ça vaut la peine. Elle sera parée avec toutes sortes de pierres précieuses. Ne pensez pas que la communion sur Internet suffit. Le Seigneur, il voudrait que nous soyons présents. C'est ça qui nous fait avancer. Tu peux toujours te cacher derrière ton écran. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est une église édifiée. Bon, il est vrai que le Seigneur a quand même béni richement la communion sur Internet. Il nous a donné ce moyen pour ne pas interrompre les partages, la communion pendant l'époque de la pandémie. Et c'est aussi un test pour notre foi. Le Seigneur nous teste, nous éprouve. Si tout ne va pas comme d'habitude, sans faille, du coup, tout est renversé. C'est une bonne occasion pour fortifier notre foi. Probablement, beaucoup seront distraits pour suivre d'autres choses. Mais nous voudrions voir l'agneau de plus en plus, cet agneau sur le trône. Et nous aimons être son épouse qui l'attend avec un cœur pur. Comme Paul l'a bien dit dans 1 Corinthiens 11, qu'il veut préparer une épouse pour Christ, pure, simple,
überschießend in Wissen,
pas débordant de connaissances et de doctrines, mais dans la simplicité et la pureté de Christ. C'est ça, son épouse. Louez le Seigneur.